France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Giorgia Meloni, la revanche d'une identitaire. Cette femme vient de fêter ses 3 ans à la tête de l'exécutif italien, ce qui est presque baroque dans un pays que l'on pensait condamné à l'instabilité gouvernementale. Sans compter que sa popularité en Italie ne semble pas s'émousser et qu'elle a su s'imposer comme une figure incontournable en Europe et même dans le monde. En juillet 2025, pour preuve, elle faisait la une du magazine américain Time en femme forte de l'Europe. Bien. Mais qui est Giorgia Meloni et comment a-t-elle réussi ce tour de force? Eh bien, portée par un grand flair politique et un sens aigu du timing, elle fonde en 2012 son parti Fratelli d'Italia. Formule qui correspond au premier mot de l'hymne national italien, frère d'Italie. Et surtout, elle réussit à imposer ses idées conservatrices et identitaires en prenant ses distances avec l'héritage fasciste de son parti sans y renoncer totalement. Meloni l'équilibriste. Notre invitée aujourd'hui, Hélène Frappa, écrivaine, bien sûr, autrice d'un roman dont le personnage principal est inspiré de la vie de Giorgia Meloni, livre intitulé Nerona, publié en août 2025 chez Actes Sud. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Rambert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
E invito sul palco un'altra combattente per la libertà di questo paese.
Ce 19 octobre 2019, la place San Giovanni à Rome est noire de monde. Le peuple de droite s'est réuni pour crier sa fierté d'être italien. Et surtout, son rejet du gouvernement de coalition mené par Giuseppe Conte. Les drapeaux italiens volent au milieu de ceux des 3 partis d'opposition à droite. Forza Italia, de l'indéboulonnable Silvio Berlusconi, la Ligue de Matteo Salvini et Fratelli d'Italia, le plus récent d'entre eux, classé à l'extrême droite. Lors de son passage sur l'estrade, devant ses sympathisants, sa présidente, Giorgia Meloni, hurle un discours conservateur et identitaire qui marque les esprits.
Aujourd'hui, il parle de supprimer les termes père et mère des documents officiels. Parce que la famille est un ennemi. L'identité nationale est un ennemi. L'identité de genre est un ennemi. Tout ce qui nous définit pour eux, c'est un ennemi. C'est le jeu de la pensée unique. Ils doivent nous priver de tout ce que nous sommes parce que quand nous n'aurons plus d'identité, plus de racines, nous n'aurons plus conscience de qui nous sommes et on sera incapable de défendre nos droits. C'est leur jeu qu'ils jouent. Ils veulent que nous soyons parents 1, parents 2, LGBT, citoyens X, des codes. Mais nous ne sommes pas des codes. Nous sommes des personnes et nous défendrons notre identité. Je suis Giorgia. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis italienne. Je suis chrétienne. Vous ne me l'enlèverez pas. Vous ne me l'enlèverez pas.
Voilà, tout est dit, ou presque. Giorgia Meloni aurait pu ajouter en effet « Je suis romaine ». Elle qui a la ville éternelle dans le sang et qui garde un fort accent populaire romain qu'elle revendique d'ailleurs. Meloni naît dans la capitale italienne en 1977. Alors qu'elle n'aurait pas dû naître, apparemment. Enfin, elle adore raconter l'anecdote. Lorsque sa mère, Anna, tombe enceinte, à 23 ans, elle a déjà une petite fille. Et avec son compagnon, rien ne va plus. Pas la situation rêvée pour mettre au monde un deuxième enfant, d'ailleurs. Tout le monde lui dit. Anna est d'abord résolue à avorter. Un matin, elle prend donc le chemin de l'hôpital pour se soumettre aux examens cliniques prévus avant l'interruption de grossesse, à jeun, comme on lui a demandé. Sauf que, arrivée dans l'hôpital, les certitudes de la jeune femme vacillent. Et finalement, elle change d'avis. Cet enfant, elle va le garder, contre l'avis de tous. Alors elle tourne les talons, entre dans le premier bar venu et commande un cappuccino et un croissant. Un cornetto. L'histoire ne dit pas s'il est pieno, à la confiture, ou vuoto, donc classique. De toute façon, on ne sait pas vraiment si l'histoire elle-même est véridique. Mais peu importe. Elle sert à merveille la politique nataliste de l'actuelle présidente du Conseil. Et puis, comme dit l'adage, si la légende est plus forte que la réalité, retiens la légende. Quoi qu'il en soit, L'arrivée de Giorgia ne ressoude pas le couple Cannaforme avec son père, Francesco Meloni. Loin s'en faut. Déjà négligent alors que sa fille a un an, il quitte le foyer mais carrément les voiles pour tenter sa chance aux Canaries. À 11 ans, Giorgia Meloni cesse définitivement de voir son père. Sûrement une bonne chose pour sa future carrière. Car quelques années après, Francesco Meloni est condamné pour trafic de drogue. Entre les deux parents, c'est clair, il y a un gouffre. Le père, Oni, est de gauche, communiste. La mère, militante, néo-fasciste, sérieuse, elle. Est-ce que la jeune Giorgia se construit en femme de droite par fidélité à la mère et contre la figure paternelle? Possible. Les théories psychologisantes sont tentantes, mais Meloni les balaie d'un revers de la main, comme ici, dans l'émission italienne La Confession en 2022.
Êtes-vous sûr que votre choix de devenir, de vous sentir de droite à 15 ans, n'a rien à voir avec un rejet de votre père de gauche?
Non, absolument pas. D'autant que j'ai découvert les inclinations politiques de mon père plus tard, car mon père ne m'en a jamais parlé dans ma vie. En fait, je ne me souviens pas avoir jamais vécu avec mon père. Donc ce n'est pas une personne avec laquelle j'ai eu l'occasion de parler de politique au quotidien, même à l'adolescence. Contrairement à ma mère. Paradoxalement, le fait que ma mère ait été de droite a peut-être plus d'influence. Mais en réalité, aucun des deux.
Meloni ne nie pas complètement l'influence paternelle sur sa carrière. Elle s'épanche notamment dans son livre Confession, Je suis Giorgia, paru en 2021, qui s'est écoulé comme des petits pains dans la péninsule et qui a certainement contribué à ses succès électoraux. Ce besoin permanent d'être à la hauteur, de tirer son épingle du jeu dans un monde d'hommes, cette peur de décevoir, elle l'associe directement à l'indifférence de son géniteur. Bref, Giorgia choisit vite son camp, celui de la droite et, dans son esprit, de la droiture. Elle grandit dans les quartiers populaires de la Garbatella, une cité-jardin au sud de Rome, construite pour les ouvriers dans les années 20. Historiquement, un lieu de résistance antifasciste, puis un bastion communiste. À l'en croire, c'est en 1992 que naît sa vocation pour la politique alors qu'elle n'a encore que 15 ans. Nous sommes en 1992, une année charnière en Italie. Giorgia Meloni commence à s'intéresser à l'actualité et à regarder le journal télévisé avec sa mère. Elle assiste à l'effondrement de ce qu'on appellera la première république italienne. En quelques mois en effet, un petit groupe de magistrats milanais, déterminé, galvanisé par un immense soutien populaire, révèle le plus vaste système de corruption jamais mis au jour en Italie. C'est l'opération « Main propre » ou « Manipolite ». Les enquêtes atomisent le système politique et institutionnel italien. 4000 entrepreneurs, politiques et fonctionnaires sont mis en examen. Alors, un petit parti néo-fasciste, le mouvement social italien, MSI, espère profiter de ce dégagisme généralisé.
Des gants blancs pour montrer qu'ils ont les mains propres, les fascistes italiens ont organisé aujourd'hui à Rome une grande marche contre la corruption. Ils ont réussi à faire descendre plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue, souvent très jeunes. Les petits partis, ceux qui n'ont pas été aux affaires depuis des années, relèvent la tête, comme les ligues fédéralistes, grandes gagnantes des dernières élections. Les fascistes du MSI aimeraient aussi prendre leur part, mais pour l'instant, ils représentent moins de 5% au Parlement. Mais au moment où se met en place un plan d'austérité en Italie, qui risque de faire de nombreux mécontents, il faudra compter avec les nostalgiques de l'époque du Duce, époque où l'économie allait bien.
La même année, les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino sont assassinés par la mafia sicilienne, sous la houlette de l'incontrôlable Totò Riina, le parrain des parrains, une brute épaisse, comme Cosa Nostra n'en avait jamais connu, c'est dire. En voyant les images de la mort de Borsellino, au cœur de l'été, la jeune Giorgia aurait ressenti le besoin d'agir. C'est ce qu'elle raconte. Plus question d'être spectatrice. Alors, ce sera l'action, la politique, et ce sera le MSI, où sa mère a milité avant elle. Car à ses yeux, c'est le seul parti qui ne trempe pas dans les magouilles. Porté par des nostalgiques de Mussolini, le MSI voit le jour au sortir de la guerre en 1946. Comme logo, il adopte une flamme tricolore vert-blanc-rouge. Il représenterait une lampe qui continue de brûler devant la tombe du Duce. Le MSI est un parti en marge, certes, mais toléré dans le jeu politique républicain italien. Alors, Est-ce un signe du destin pour Meloni? Il se trouve qu'il y a une permanence à l'angle de sa rue. Elle raconte, dans sa biographie, qu'elle trouve au front de la jeunesse, la branche jeunesse du MSI, sa seconde famille, bien plus nombreuse que celle d'origine. Une famille qu'elle s'efforce de faire passer pour accueillante et fréquentable. Elle y décrit à longueur de page un groupe de jeunes gens soudés, animés de la seule pureté militante, entièrement dédiés à de nobles causes et incorruptibles. Ça tombe bien. La première, comme disent les Italiens, compte encore aujourd'hui des anciens des jeunesses du MSI parmi ses plus proches collaborateurs. Et la jeune recrue ne tarde pas à être repérée par la section MSI de Colle Oppio, à Rome. Et ce n'est pas n'importe quelle section. Dans les années 70, marquée par une grande violence politique, elle est décrite comme la plus radicale, quasiment sectaire. C'est entre ces murs que Giorgia écoute les récits quasi mythifiés des rixes des anciens du MSI contre les gauchistes. L'imaginaire de ces aînés vaincus nourrit alors un désir de revanche chez elle. À la veille de son élection à la tête du Conseil, en 2022, Gianni Alemano, ancien maire de Rome et ancien de Colle Oppio, se souvient de sa ferveur militante.
Je suis venu ici pour la première fois quand j'avais 13-14 ans pour suivre un cours de formation politique. Dans les années 70, il y avait encore les vieux souvenirs. Les bustes du Duce. Oui, ce genre de choses. Giorgia Meloni s'est imposée comme une star du militantisme. La première fois que je l'ai vue, elle menait un cortège, mégaphone à la main, et faisait scander des slogans dans un cortège. Je suis très fier que la première femme à devenir présidente du Conseil soit issue de notre histoire et de notre milieu.
L'Italie des années 90 n'a plus rien à voir avec celle des années 70. Le vieux monde politique est mort et a laissé place à une sorte de vide idéologique. Alors, opportuniste, voilà que déboule sur cette friche un certain Berlusconi. Richissime entrepreneur, sans aucune expérience politique, il crée un nouveau parti de centre-droit, Forza Italia. Allez l'Italie, et brigue la présidence du Conseil. Carton plein. Mais pour obtenir une majorité, il a besoin de s'allier avec des forces de droite déjà structurées. C'est comme ça que 50 ans après la mort du Duce, ses héritiers reviennent au gouvernement par le biais du MSI. Malaise sur la scène européenne. Est-ce que les chemises noires sont de retour en Italie? Aucun risque, à en croire Gianfranco Fini, le jeune et très présentable secrétaire général du MSI. Extrait rapporté par l'émission Les brûlures de l'histoire sur FR3.
Il n'existe pas en Italie une menace fasciste et l'Alliance nationale, c'est une droite moderne, européenne, démocratique. Et la gauche cherche la...
La revanche
des élections de 27 mars.
Gianfranco Fini est le premier artisan de ce que l'on n'appelle pas encore la dédiabolisation du MSI. En tout cas, il revient de loin. Quelques mois avant, il considérait encore Mussolini comme le plus grand homme d'État du XXe siècle. Le processus atteint son apogée l'année suivante, en 1995, avec ce qu'on a appelé le tournant de Fiuggi. Dans cette petite ville thermale, près de Rome, devant des militants en larmes, le parti post-fasciste est dissous et change officiellement de nom. Le MSI est mort, vive Alliance Nationale. Le changement, au moins de façade, est incontestable. Sont exclus du nouveau parti tous ceux qui ne reconnaissent pas l'antifascisme comme valeur fondatrice de la démocratie italienne. En 2 ans à peine, Fini réussit à faire de son parti l'une des 3 forces politiques majeures en Italie. C'est donc au sein de cette extrême droite ripollinée que Meloni commence sa carrière politique. Elle devient responsable nationale d'Action étudiante, le mouvement des jeunes d'Alliance nationale. À l'approche des élections législatives de 1996, une équipe de France 3 décide de suivre une jeune militante du parti. Une boule d'énergie et de détermination. Elle a 19 ans. Tout en noir, long manteau en cuir, elle a l'air de sortir de l'univers de Matrix. Elle s'appelle Giorgia Meloni. Et elle s'exprime dans un français fluide.
Ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Giorgia ne s'en cache pas.
Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eu dans les dernières 50 ans.
Elle dirige la section des jeunes de la Garbatella, un quartier populaire de Rome. 40 militants sont sous ses ordres, presque tous des garçons.
Ce que j'ai fait pour cette élection, je l'ai fait parce que j'y crois. Donc, si nous perdons, nous gagnerons une autre fois.
Eh oui, perdu. Les élections sont remportées par la gauche de Romano Prodi. Mais chaque chose en son temps. Dans les années 2000, Meloni est une cadre montante du parti. Elle se distingue par son image de jeune femme populaire, sa discipline et son discours idéologique. C'est aussi une oratrice remarquable. D'abord élue conseillère provinciale à Rome, elle fait irruption sur la scène nationale en 2004. À 27 ans, elle entre à la Chambre des députés. Alliance nationale étant de retour dans l'opposition, Meloni peaufine son discours identitaire, tape violemment sur la gauche au sujet de la famille, de l'école ou de la nation. Elle apprend les rouages du jeu politique et de la communication. Elle devient une figure médiatique régulière. Et après la victoire de la grande coalition de droite, Peuple de la Liberté, en 2008, elle devient ministre de la Jeunesse, à 31 ans. Ce qui fait d'elle la plus jeune ministre, hommes et femmes confondus, de la République italienne. En 2011, mise en minorité, minée par un scandale sexuel sur fond de crise de la dette et de pression européenne, Berlusconi démissionne. Un technocrate et ancien commissaire européen, Mario Monti, est nommé à la place, histoire de rassurer les marchés. Mais pour beaucoup d'Italiens, c'est l'humiliation. Meloni vote la confiance à contre-cœur, mais ne veut pas participer aux primaires du parti en déliquescence après l'annonce du départ de Silvio Berlusconi.
Je crois que cela vaut la peine d'apporter sa contribution pour essayer de ramener le peuple de la liberté, le centre droit italien, le plus près possible des 30% avec lesquels il est né, alors qu'aujourd'hui, les sondages lui attribuent des pourcentages beaucoup plus bas. J'aimerais que l'on puisse représenter un peu les déçus, c'est-à-dire c'est plus de 20% d'Italiens qui ne se sentent plus représentés par nous aujourd'hui. Et je pense pouvoir le faire, en partie parce que parfois le centre droit et le peuple de la liberté m'ont moi aussi déçu.
Au dernier moment, Berlusconi décide de reprendre les rênes. Oubliez les primaires. Pour Giorgia Meloni, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle le sent bien, il y a un peuple de droite allergique au compromis, usé par les scandales et les crises économiques. Le peuple cherche une autre voie. Alors, en 2012, Meloni crée son parti, Fratelli d'Italia. Et puis ce logo qui réchauffe le cœur des nostalgiques du MSI, la flamme tricolore, brûle encore. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Giorgia Meloni, la revanche d'une identitaire.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Depuis 2012, la leader d'extrême droite est à la tête d'un nouveau parti. Enfin nouveau, tout est relatif. On retrouve dans les rangs de Fratelli d'Italia bon nombre d'anciens du gouvernement Berlusconi de 2008. Ce mouvement se positionne comme défenseur des valeurs traditionnelles et de l'Italie. Ses succès sont d'abord modestes. Aux européennes de 2014, Fratelli d'Italia rassemble moins de 4% des voix. En 2016, Giorgia Meloni rate la mairie de Rome. Mais au fil du temps, l'écoute de ce parti augmente et il récolte 6,5% des voix aux européennes de 2019, permettant à Meloni de présider un groupe d'eurodéputés. Et puis ce parti a dans son jeu un atout de taille, Meloni elle-même, indéniablement charismatique. Et puis il y a le fameux discours d'octobre 2019 que nous avons entendu au début de ce récit, celui dans lequel elle revendique avec véhémence son identité italienne et chrétienne, et son attachement à la famille traditionnelle. Quelques jours après son coup d'état sur scène, son coup d'éclat sur scène, deux jeunes DJ milanais remixent son discours. Et le morceau devient viral et cumule des millions d'écoutes. Ce qui fait dire à Giorgia Meloni dans son autobiographie « J'ai réalisé mon rêve, devenir chanteuse ». Autre atout, son sens très aigu de la communication qui se double d'un vrai sens tactique. Les années 2010 sont celles d'une grande instabilité politique en Italie. Sur une période de 10 ans, 7 gouvernements vont se succéder, chacun avec une durée de vie moyenne inférieure à 18 mois. Giorgia Meloni campe systématiquement dans l'opposition. Ce qui n'est pas le choix de son rival d'alors à l'extrême droite, Matteo Salvini, à la tête de la Ligue. Lui devient ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Giuseppe Conte, étiqueté mouvement 5 étoiles. Une période de surexposition médiatique, d'outrance et de provocation populiste. Quand Salvini ne se déguise pas en policier ou en garde-côte, il harangue la foule depuis les balcons où s'exprimait le Duce. Et il revendique son soutien à Vladimir Poutine. Extrait choisi en 2017, en direct à la télé italienne.
Mes sources d'inspiration sont ma mère et mon père. Quant à Poutine, je l'estime et le respecte. Parce que s'il n'était pas parti en Syrie combattre Daesh, peut-être qu'aujourd'hui, sur cette chaîne, nous aurions quelqu'un en burqa et quelqu'un avec une mitraillette à la main pour décider de ce qu'on peut dire et ne pas dire. Les sanctions contre la Russie sont une folie.
Salvini finit par s'auto-saborder. Et en janvier 2021, le gouvernement Conte explose. Le président de la République choisit alors Mario Draghi pour le remplacer. C'est l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne. En pleine crise du Covid, le chef de l'État désigne une personnalité qu'il estime capable de faire face aux grandes urgences sanitaires, sociales et économico-financières de l'Italie. Draghi appelle les forces politiques, toutes tendances confondues, à former un gouvernement d'union nationale. Et tout le monde y va. Même la Ligue de Matteo Salvini, pourtant adepte d'une ligne dure, eurosceptique, nationaliste. Alors il se justifie en disant « Nous ne pouvons pas progresser si nous disons toujours non ». Meloni, elle pense exactement le contraire. Elle est la seule à refuser de participer à ce gouvernement. Un choix qui va être payant. Parce que très vite, vient le temps des réformes difficiles et celui des restrictions sanitaires, particulièrement impopulaires auprès des Italiens. Alors, Giorgia Meloni se positionne en opposante énergique, mais sans jamais dériver dans l'anti-establishment, sans tomber non plus dans le piège du mépris pour ses adversaires politiques. Les vociférations, les outrances n'ont pas pour autant disparu. Elle les réserve à ses pairs d'extrême droite. Comme ici, lors d'un meeting du parti d'extrême droite espagnol, Vox, en 2022.
Oui à la famille naturelle.
Non aux lobbies LGBT.
Oui à l'identité sexuelle. Non à l'idéologie du genre. Oui à la culture de la vie. Non à l'abîme de la mort. Oui à l'universalité de la croix. Non à la violence islamiste. Oui, aux frontières sûres. Non à l'immigration massive. Oui, au travail de nos concitoyens. Non à la grande finance internationale. Oui, à la souveraineté des peuples. Non aux bureaucrates de Bruxelles.
Oui à notre civilisation, non à ceux qui veulent la détruire.
Juillet 2022, nouvelle crise politique. Mario Draghi doit s'en aller. Cette fois, le président italien Giuseppe Mattarella décide de dissoudre les deux chambres et de convoquer des élections anticipées. Une courte campagne électorale s'ouvre au cœur de l'été italien. Contrairement à la gauche, la droite est prête avec une coalition déjà structurée. Elle réunit Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, Forza Italia de Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini. Mais c'est bien elle, Giorgia, qui est la locomotive de la coalition. En quelques années, elle a cannibalisé ses rivaux de droite, devenus alliés de circonstances. Berlusconi est âgé et représente le vieux monde. Salvini s'est forgé une image d'opportuniste et s'est discrédité. Et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sa poutinophilie grotesque fait encore plus tâche. Meloni, au contraire, fait figure de femme providentielle, vierge de toute compromission. Et Fratelli d'Italia caracole en tête des sondages. Alors en Europe, on prend peur. Le passé politique trouble de Meloni et sa radicalité laissent craindre le pire. En août 2022, elle se fend d'une vidéo en trois langues pour montrer patte blanche.
Depuis plusieurs jours, je lis des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquelles je suis décrit comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre. Un tournant autoritaire à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Mais je demande catégoriquement ces narratifs absurdes.
La victoire était écrite. Le 25 septembre 2022, l'Alliance des droites réunit près de 44% des suffrages exprimés loin devant la gauche. À lui seul, Fratelli d'Italia réunit 26% des voix. Et le 21 octobre 2022, Giorgia Meloni devient la première femme à présider le Conseil des ministres de son pays. Dès et dans son premier discours politique de politique générale, elle cherche toujours à décoller l'étiquette de fasciste qui lui colle à la peau. La main sur le cœur, elle nie avoir jamais eu de sympathie ou de proximité vis-à-vis des régimes antidémocratiques. Pour aucun régime fasciste compris. Pourtant, un mot lui reste coincé dans la gorge. Antifascisme. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les Italiens, ça veut dire beaucoup. Pour les Français aussi d'ailleurs, depuis dimanche, et les appels de LFI pour un front antifasciste. Bref, il se trouve, plus sérieusement, que la République italienne et sa constitution ont été bâties sur ce principe fondateur, l'antifascisme. Et le malaise se cristallise autour des commémorations du 25 avril, date anniversaire de la libération du Joug nazi et de son allié fasciste. Mais désormais, de lointains héritiers des vaincus de 1945 sont aux commandes. Et ils ont une revanche à prendre. Les crispations déjà évidentes en 2023 montent d'un cran en 2024. Le célèbre écrivain Antonio Scurati est censé tenir un discours à la télé sur les liens, selon lui, jamais rompus de Fratelli d'Italia avec la tradition fasciste. Eh bien, son intervention est annulée in extremis pour raison éditoriale. Indignation unanime de l'opposition. En réponse, et pour récuser toute tentative de censure, Giorgia Meloni publie le texte de l'écrivain sur son site internet. Bien, mais insuffisant pour éteindre la polémique. Le lendemain, Antonio Scutari prend la parole sur scène, place du Duomo à Milan.
Le groupe dirigeant post-fasciste avait deux options. Renier son passé néofasciste ou tenter de réécrire l'histoire. Il a malheureusement choisi la seconde voie. Il a nié le rôle fondamental de la résistance dans la Renaissance italienne au point de ne jamais mentionner le mot antifascisme à l'occasion du 25 avril. Je crains que tant que le mot antifascisme ne sera pas prononcé par ceux qui nous gouvernent, Le spectre du fascisme continuera à hanter la maison de la démocratie italienne.
En octobre 2022, Ignazio La Russa, l'un des cofondateurs de Fratelli d'Italia, est nommé président du Sénat. Une vidéo embarrassante remonte alors à la surface. On le voit ouvrir la porte de son appartement à des journalistes et pavaner devant une statuette et des médaillons à l'effigie de Mussolini. Lui ne voit pas le problème, c'est sentimental, dit-il. Ses babioles lui ont été léguées par son père, un vieux fasciste irrécupérable. On parle quand même ici du numéro 2 de l'État. Qui voudrait croire à la fable d'un jeune parti coupé de ses racines radicales qui fleurirait sur des bases plus saines ? Pendant des mois, des journalistes du média italien en ligne, fin de page, s'infiltrent en caméra cachée dans les rangs des jeunes militants de Fratelli d'Italia. Les images qu'ils tirent de ce long travail d'enquête jettent la lumière la plus crue sur la prégnance d'une culture fasciste pure et dure dans le parti. Au programme, apologie du Duce et bras tendus. Écoutez un extrait de ce document intitulé « Jeunesse mélonienne ».
Ce à quoi nous assistons est un concert de rock identitaire, la musique qui anime les soirées des militants d'extrême droite. Ici, outre les jeunes qui, bras tendus, acclament le Duce, on retrouve également les représentants de l'actuelle droite au pouvoir. Les députés de Fratelli d'Italia, Marco Perisse et Paolo Trancassini se serrent le bras comme de vrais compagnons d'armes. C'est également ici que Nicola Procaccini, député européen à peine réélu et homme de confiance de Giorgia Meloni, remercie ses partisans avec le salut romain. Le lieu où tout cela se passe n'est pas un repère d'extrême droite, mais le siège de Fratelli d'Italia. Et nous sommes ici parce que nous faisons partie de ces militants.
En réaction, Giorgia Meloni joue la carte attendue, pas au courant. Fratelli d'Italia n'a rien à voir avec ces dangereux extrémistes. Non, le problème, voyez-vous, ce sont ces journalistes-là qui fourrent leur nez partout. Du reste, ces révélations n'entament pas son image. Meloni l'a construit par d'autres aspects de sa politique. L'Europe, d'abord, qui après l'inquiétude, pousse un ouf de soulagement. Et finalement, cette Meloni, elle a l'air tout à fait fréquentable. Terminé ou presque les discours populistes contre Bruxelles. Il faut dire qu'elle en a bien besoin de l'Europe. Et en matière de politique étrangère, elle s'aligne sur les positions les plus modérées et apporte notamment un soutien sans ambiguïté à l'Ukraine. Sur le plan intérieur, Meloni adopte la ligne droitière promise à ses électeurs. L'Italie ne devient pas la Hongrie de Orban, mais elle s'attaque par petites touches aux droits des migrants, des personnes LGBT ou des militants écologistes face à une opposition qui s'oppose mollement. C'est de toute façon un autre narratif qui s'impose, celui du « Make Italy Great Again ». Grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques, l'Italie affiche bientôt un déficit public en baisse et un excédent commercial en hausse. La discipline budgétaire masque pourtant une économie à la peine, mais peu importe. La leader d'extrême droite a réussi à redorer le blason d'une nation qui se longtemps sentie reléguée en Europe, alors qu'elle en est, rappelons-le, l'une des fondatrices, avec l'Allemagne, la France et le Benelux. L'Europe communautaire est officiellement née à Rome, en 1957, par le traité du même nom. Quoi qu'il en soit, Giorgia Meloni a remporté le combat de la crédibilité et elle vit un quasi-état de grâce. En juillet 2025, elle fait la une du magazine américain Time en femme forte de l'Europe. Ariana Meloni, sœur de et chef du secrétariat politique de Fratelli d'Italia, ne cache pas sa satisfaction.
Il y a quelques jours, le magazine le plus influent au monde a publié un très long article élogieux sur Giorgia Meloni et ses bonnes politiques, qui racontait l'histoire d'une Italie qui a renoué avec la croissance. Eh bien, croyez-moi, quand j'ai vu la couverture du Time, j'ai été émue. Et j'ai été émue parce que ce n'était pas seulement ma sœur, et ce n'était même pas Giorgia Meloni, c'était l'Italie. Une Italie qui a retrouvé sa grandeur, qui est à égalité avec les grandes puissances mondiales.
Après plus de 3 ans au pouvoir, l'Italie affiche une étonnante stabilité politique. Et Giorgia Meloni, une popularité solide, n'est pas intacte. En témoigne par exemple peu d'applaudissements qu'elle a recueillis dans les arènes de Vérone il y a 15 jours pour la soirée d'ouverture des Paralympiques de Cortina d'Ampezzo. Elle voulait sa revanche, elle l'a tout de même. Comme si avec elle, il n'avait jamais aussi bon d'appartenir à l'international réactionnaire. Avec Salvini, Le Pen, Netanyahu et les autres leaders d'extrême droite, Meloni a d'ailleurs enregistré une vidéo de soutien électoral à Orban. Et qui préface son autobiographie « I am Georgia », désormais traduit aux USA, Donald Trump Jr. himself. Voilà, tout est dit sur cette sorte de fatigue démocratique que subit en ce moment notre monde occidental. Sujet majeur de préoccupation pour tous ceux et toutes celles qui sont attachés à la liberté et au progrès.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Giorgia Meloni, dont nous parlons avec notre invitée Hélène Frappa. Bonjour Hélène Frappa.
Salve, comment dire.
Salve, si, Fabrice. Écrivaine, autrice d'un roman dont le personnage principal est clairement inspiré de la vie de Meloni. Hein. Livre intitulé Nerona, publié en août 2025 chez Actes Sud. Alors, dans votre roman, Nerona donc, vous campez une dictatrice déchaînée dans un pays européen qui n'est pas nommé. Elle se fait appeler le prince, gouverne à coup de décret. Tout est fictif, bien sûr, mais vous ne faites pas de mystère de la figure bien réelle qui vous a inspiré, c'est Meloni. Qu'est-ce qui fait qu'elle est un bon personnage pour la romancière que vous êtes ?
C'est un personnage assez, assez génial. Sans doute essentiellement pour sa duplicité. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à dire le contraire de ce qu'elle fait, ce qui du coup ouvre des perspectives romanesques. Moi, en fait, l'idée m'est venue parce que j'avais cette conviction, effectivement, que c'est notre laboratoire. Ce pays. C'est-à-dire que c'est un pays d'avant-garde. Alors, avant-garde en italien, c'est un mot fasciste. Hein. L'avant-guardia, ça désigne l'avant-garde dans un sens fasciste. Mais c'est l'avant-garde au bon sens et au mauvais sens du terme. L'avant-garde politique. Et puis un jour, il y a déjà quelques années, c'était avant son accession au pouvoir, j'ai vu le visage de celle qui se faisait déjà féminiser, materniser de ce petit prénom. C'est assez misogyne en même temps, hein, cette idée que les femmes, on les appelle de leur petit prénom, jamais on ferait ça avec un homme. Mais donc cette Giorgia, dont le visage est surtout le regard d'une dureté hors du commun, d'un manque d'empathie, je dirais, hors du commun, m'a frappée sur les murs de Rome. J'ai commencé à m'intéresser à elle, et puis c'est quand j'ai découvert, c'était à l'aube de son élection, qu'elle avait foutu le feu, en fait.
À sa maison.
À son appartement familial, quand elle avait 4 ans. Accidentellement, elle en fait évidemment un storytelling, un narratif, comme elle dit, d'un terme très à l'américaine. J'ai vu Néron.
Alors quel regard, merci, jetez-vous sur l'accession au pouvoir d'une femme, parce qu'il y a cette dimension-là aussi, dans un pays comme l'Italie, encore patriarcal, comme la France d'ailleurs.
Alors, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Alors d'abord, soyons clairs, et ça c'est l'écrivaine méditerranéenne que je suis, le matriarcat soi-disant méditerranéen est une arnaque. Il n'existe pas. Certes, il y a des femmes fortes, et elles surjouent l'image de la femme forte. Cependant, ceux qui restent au pouvoir dans un cadre méditerranéen, c'est cette structure patriarcale. Giorgia Meloni, elle est de, alors je ne vais pas dire de genre féminin, elle est complètement contre ce qu'elle appelle l'idéologie du genre, mais le fait qu'elle soit, disons, de sexe féminin ou de genre féminin, ça n'a aucune importance en réalité, puisqu'elle est le meilleur support du patriarcat fasciste. Cependant, ce qui est très intéressant et ce qui en fait aussi un personnage d'avant-garde, c'est que je pense qu'elle anticipe des figures de femmes. Par exemple, je pense maintenant à la première ministre japonaise d'extrême droite. Je pense à Alice Weidel. Je pense comme ça à des figures, au fond, qui ramènent peut-être un thatcherisme, hein, une figure de Thatcher au premier plan, qui font qu'elle va utiliser tout le côté pastel, hein, pour prendre les couleurs pastel qui avaient beaucoup séduit l'écrivain Emmanuel Carrère quand il fait un portrait relativement dithyrambique de Giorgia Meloni dans Le Monde il y a quelques mois. Donc, tout cet attirail complètement bidon, en fait, qui de couleurs douces, qu'elle accorde très bien avec Ursula von der Leyen. On les a vus beaucoup en couple coloré. D'ailleurs, je me moque de ce couple politique très fort, qui est très important dans l'histoire. Mmh. Parce qu'en réalité, elle a eu un discours anti-Europe, dont, en vrai, elle a touché tellement de milliards de l'Europe, Giorgia Meloni, que l'idée, c'est quand même d'utiliser l'Italie comme un vrai laboratoire pour se débarrasser d'une manière, pour appliquer une politique inhumaine contre les migrants, qui a été cassée par les juges. Hein, les juges à Rome, des juges aussi en Europe, et on va en arriver sans doute à la réforme des juges hein, qui fait qu'on en est là actuellement. Donc le discours pastel, le discours sur le mariage, elle n'est pas mariée, hein.
Oui.
Bah ben, c'est encore une autre duplicité. Le discours de la femme forte, en même temps, elle peut surjouer la victime en permanence. Le discours de la maternité, le délit universel sur la GPA, la haine des homosexuels, mais vraiment la haine.
On l'entend dans le discours qu'on a...
Ceux qu'elle appelle les déviants. Ouais. Elle emploie ce terme dans son programme, sachant qu'elle les réunit dans le programme avec les boulimiques.
Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie qu'elle a déployée pour en arriver là? Je crois que vous avez écouté hier l'émission sur Gramsci.
Donc, elle comprend très vite, hein, et en fait, ça, c'était rappelé hier très bien dans l'émission, que ça date des années 70. Déjà, cette manière de gaslighter, pour reprendre le terme de mon précédent livre, où il était déjà question de Giorgia Meloni, c'est-à-dire d'inverser, de pervertir des mots. Et donc, de prendre l'hégémonie culturelle, une théorie absolument marxiste chez Gramsci, et d'en faire concrètement une pratique politique, quand elle arrive au pouvoir, qui consiste à couper la tête de tous les dirigeants des institutions culturelles, et faire en sorte de s'emparer de la RAI au point qu'en Italie, elle est surnommée Télé Meloni.
On va s'arrêter là-dessus justement. Continuez, mais on va revenir sur ce point.
Voilà, Télé Nerona dans mon livre. Et donc, de comprendre que pendant longtemps, l'extrême droite ne s'est pas tellement intéressée à ce domaine de la culture. Et là, ils comprennent précisément, pour employer le terme qu'ils emploient constamment, ce terme de narratif, qu'il va falloir utiliser les mots, les pervertir, faire exactement ce qui est fait actuellement en France, par exemple, avec ce terme d'antifascisme. L'émission rappelle remarquablement qu'elle ne prononce jamais ce mot et que ce silence vaut tellement de discours. C'est-à-dire, c'est quoi l'antifascisme en Italie? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre à nous, Français? C'est le fait qu'en effet, la République démocratique post-fasciste en Italie s'est créée sur la victoire de la résistance, la victoire de la lutte contre ce qu'ils appellent les nazis fascistes, et que l'antifascisme est cette force même qui inspire la Constitution
italienne. Bien sûr, on l'a rappelé dans le récit, bien sûr.
Merveilleusement. Ne pas le prononcer, ça veut dire en réalité continuer à se qualifier comme fasciste. De même qu'en France, il y a une équivalence qui est faite maintenant, qui remonte aux théories fascistes des années 70, hein, les théories de l'équidistance où tout devient équivalent, entre fascisme et antifascisme. Il n'y a jamais eu d'équivalence. Il n'y aurait pas d'antifascisme sans lutte contre le fascisme. C'est exactement ce que le silence de Meloni Nerona nous apprend, en fait. On a tout à apprendre de ce qu'elle nous dit et aussi de ce qu'elle ne nous dit pas.
Et aussi par rapport aux médias. On peut faire un petit rapprochement avec les sortes de guerres culturelles que nous mène la sphère Bolloré, par exemple, contre les services publics. Et elle dit aussi la RAI sous l'emprise de l'hégémonie culturelle de gauche. Alors, tout ça, c'est des fantasmes,
alors,
évidemment.
Voilà. C'est en fait, tous les contre-pouvoirs qui existent dans une démocratie sont, et toutes les institutions qui sont là pour la rendre vivante. Je rappelle que le programme du fascisme, il n'y en a qu'un. Hein. Moi, pour le coup, c'est Franco qui l'a le mieux formulé, c'est « vive la mort ». Hein, donc les discours pro-life et tout ça, il faut voir en fait en réalité ce qu'il y a derrière. Donc la mort des institutions qui font la vie justement d'une démocratie, donc les juges actuellement qui sont qualifiés de suppos, je cite du Hamas, hein, c'est comme ça qu'il faut prononcer apparemment maintenant, ça c'est Meloni qui le dit, hein, pour faire sa réforme qui est censée en réalité mettre fin à l'indépendance de la justice, et puis l'attaque de toutes les institutions publiques a commencé en effet par la RAI. Ça avait commencé avec la RAI 3, qui était un lieu de création extraordinaire. Et donc, ça consiste à mettre des militants fascistes, hein, à la tête de la RAI, de la télévision publique, de la radio publique, et puis des personnes notoirement incompétentes, par ailleurs.
Oui, parce que juste politique. Pieraski, notre éminent confrère Pieraski, dans son dernier livre, développe la théorie de la fatigue démocratique des pays occidentaux, ce qui veut dire que les peuples vont rendre la démocratie complice et responsable de la mondialisation et de ses pertes de repères, de la doxa libérale et évidemment de ses conséquences sociales brutales, des flux migratoires, des évolutions sociétales pas toujours acceptées, de l'écologie. Et donc cette fatigue démocratique, est-ce que c'est le syndrome qu'on voit avec l'accession de Meloni en Italie ?
Alors je pense qu'il y a beaucoup de faux débats. Je ne parle pas de la question de la fatigue démocratique, mais je pense à ce faux débat qui, à mon avis, s'il y a fatigue, il est dans ces faux débats qui sont, par exemple, a-t-elle changé ou non ? Giorgia Meloni n'a absolument pas changé. Ce qui a changé, c'est le regard que beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques portent sur elle. C'est très important de le dire, en fait. Donc, s'il y a fatigue, s'il y a parfois aussi flemme, hein, flemme dans le fait de pas faire aussi bien qu'affaires sensibles, alors je le dis vraiment, pas parce que je suis là, mais je suis venue précisément en raison du fait que c'est une émission que je juge remarquable, notamment sur le travail qui est fait sur l'Italie. Il faut travailler, il faut entendre. La langue fasciste est une langue qui doit être traduite. C'est une langue qui gaslight, c'est une langue qui inverse. C'est une langue qui inverse le sens des mots, qui ne dit jamais. C'est une langue qui dit être du côté du peuple et qui, bon, quand on voit ce qu'a fait Giorgia Meloni à peine arrivée au pouvoir, les inégalités se sont énormément creusées, la pauvreté s'est énormément accrue. Donc c'est toujours finalement la même arnaque. Donc je pense que la question, elle est là. Il y a un travail de pour le coup, et qui relève du travail du service public, sachant que tout ce qui faisait, et tout ce qui précisément avec 45 a créé cette idée d'un État protecteur, hein,
État-providence.
Voilà, y compris en Italie. C'est ça qui est en train d'être mis à mal à travers les hôpitaux, l'enseignement, la protection de l'avortement. Il devient très difficile, voire impossible dans certaines régions en Italie de se faire avorter. Le tout au nom d'un discours féminisé, etc. Alors que dans le programme, il n'y a aucune défense des droits des femmes, par exemple.
C'est toujours la duplicité de Meloni.
Donc
encore.
Voilà. Donc du coup, moi je dirais, attention à cette question de la fatigue, je pense qu'il faut continuer le travail vraiment de traduction, tel que vous l'avez fait aujourd'hui, pour bien entendre exactement quel est le programme réel qui nous attend. Parce que ce qui se passe là-bas, hein, et notamment l'abus des décrets, l'abus sécuritaire, l'interdiction peu à peu des manifestations, tout ça, c'est ce qui va nous arriver.
Peut-être. On verra dans un an maintenant. Merci.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Merci. Hélène Frappa. Je rappelle le nom de votre roman. Nerona. Ou Nerona en français.
La première Néron au féminin.
Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Giorgia Meloni, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alix Barrois.